Lights, camera.
Bonjour à tous et bienvenue à On jase de films, le podcast où je m'entretiens avec un invité ou une invitée de ses goûts en cinéma. On passe sur trois coups de cœur, un film détesté et un plaisir coupable, quelque chose d'un peu quétaine, que la personne veut bien nous annoncer. Aujourd'hui, mon invité et critique de film, c'est Hélène Faradji. Bonjour Hélène!
Salut, comment ça va?
Ça va très bien, et toi?
Ça va super, merci.
Parfait, Hélène. Pour les quelques auditeurs qui ne te connaissent pas, tu as fait ton doctorat sur le film noir dans les frères chez les frères Coen et Tarantino.
Exact.
Tu participes quotidiennement à la balado de Fred Savard.
Ouais, on est hebdomadaire.
Oui, hebdomadaire, c'est le mot que je cherchais. Merci, j'étais plus certain. Merci de me
corriger. On est toutes mélangées. Là.
Oui, c'est ça, les journées. Hein,
c'est bah ouais. Bah ouais, c'est tout pareil.
C'est ça. T'es à la tête du portail cinéma de Radio-Canada.
Ouais.
On peut te lire dans un livre que t'as écrit, oui. Le cinéma américain, publié chez Septentrion, qui est un dérivé d'Aujourd'hui l'Histoire, l'émission de radio de Radio-Canada.
Mm-hmm.
Hélène, c'est quoi ton rapport au cinéma? Comment c'est venu ton amour pour le cinéma?
Amour, oui, c'est le mot est juste. C'est venu de l'enfance. Hein. Je pense que tous les gens qui sont passionnés de cinéma, il y a quelque chose qui est lié à l'enfance, c'est sûr. Moi, je me souviens du premier film, pas en dessin animé, en prise de vue réelle que j'ai vu. C'était le Retour du Jedi, Star Wars, donc le troisième de la première trilogie qui m'avait renversé. J'avais l'âge parfait. Mm-hmm. Les Ewoks, pour moi, c'était, il n'y avait rien de mieux sur la planète que les Ewoks. C'était extraordinaire. Puis ça, je sais pas, il y a quelque chose de... Quand tu rentres dans une salle de cinéma, puis je l'ai depuis l'enfance, mais tu t'évades, quoi. T'es ailleurs, tu t'embarques, puis peut-être que je trouve la vie un peu plate, alors les films me donnent l'impression qu'elle l'est un peu moins.
Tout à fait.
Puis c'est ça, après ça, c'était les expériences au cinéma qui m'ont vraiment fait aimer la salle de cinéma, puis les films eux-mêmes... C'est des espèces de rendez-vous que j'avais avec ma mère le samedi après-midi où on enchaînait entre trois VHS, on avait Cabaret de Bob Fosse, on avait Singing in the Rain, puis on avait Holy Grail des Monty Python.
Wow! Tout un programme!
C'était vraiment notre petit rendez-vous du samedi, on en regardait un des trois, puis je sais pas, il y a quelque chose de... Ça crée de l'intimité beaucoup le cinéma, hein. ça crée des souvenirs. Ça crée de l'intimité, puis partager un film avec quelqu'un, ben c'est, je sais pas, je trouve que c'est une belle façon de dire je t'aime aussi.
Tout à fait.
Voilà, ça vient de l'enfance.
Ouais. Puis à quel moment tu as su que tu voulais faire un métier de cet amour-là?
Au début, c'était pas clair. À l'adolescence, il y avait quelque chose de très romantique dans l'idée de je veux écrire absolument, mais en même temps j'aime le cinéma. Je savais pas très bien comment concilier tout ça, puis petit à petit l'envie d'écrire sur les films a commencé à naître. Et j'ai commencé tout de suite en rejoignant différents journaux communautaires, étudiants, etc. Puis à peu près en même temps, j'ai commencé à faire de la radio aussi. Et là, je me suis rendu compte que, oh, oui, je veux écrire sur le cinéma, mais peut-être je veux en parler à la radio aussi. Ça me plaisait beaucoup, beaucoup, beaucoup. Parce que je trouve qu'à la radio, bizarrement, alors que ce n'est pas un média visuel, c'est peut-être le média ou la façon de parler de cinéma qui parle le plus à l'imaginaire des gens. Il y a quelque chose qui se connecte à l'imaginaire quand on parle et qu'on n'est pas visible, qui me semble assez magique et qui correspond parfaitement aux émotions que provoque le cinéma chez moi. Fait que, c'est ça, c'est né d'une envie d'écrire puis qui s'est peu à peu transformée. Puis après, j'ai eu un parcours... il n'y a pas d'école pour devenir critique de cinéma. Ça existe pas.
Non.
Au départ, je m'étais dit un peu naïvement, je vais essayer d'être journaliste parce que ça avait l'air d'être le truc qui se rapprochait le plus. Donc, j'ai commencé par vouloir faire une école de journalisme. En France, c'est par des écoles. Puis, c'était sur concours. Et ce concours, c'était un truc de culture générale. Et le seul domaine que je connaissais pas, c'était le droit. Donc, j'ai commencé des études en droit. Finalement, j'ai raté le concours de journalisme. Je me suis retrouvée à Montréal pour un échange étudiant. Et je sais pas, peut-être c'était le fait d'être loin de chez moi ou peu importe, mais j'étais en sciences politiques. Puis tous les jours, je passais devant le département de cinéma. Et il y a eu un jour ici à l'Université de Montréal où j'ai fait, bah non, je veux pas être en sciences politiques, je veux pas être journaliste. Ouais. Je vais étudier dans ce que j'aime. Puis là, je me suis inscrite en cinéma. Puis ça a continué comme ça.
Super. Ben, partons avec ta liste maintenant. Et allons-y avec un des plus grands classiques du cinéma américain et probablement le plus grand classique de la comédie musicale, Singing in the Rain, 1952, de Gene Kelly et Stanley Donen. Ça met entre autres en vedette Gene Kelly lui-même, mais aussi Debbie Reynolds.
Ouais.
Qu'est-ce que ça raconte,
Singing in the Rain? En fait, ce que ça raconte, c'est le passage du muet au parlant à Hollywood. Donc, comment les films se sont adaptés à cette révolution technologique. Et ça le fait à travers le destin de deux personnages principalement. Donc, Gene Kelly qui joue un acteur qui, lui, va réussir très bien. Puis, il faut qu'il fasse cette transition-là avec son acolyte du muet qui, elle, est une actrice très aimée, mais qui parle du nez de façon monstrueuse, et qui donc est pas capable, qui a une diction absolument terrible. Et donc, on engage une jeune fille qui chante merveilleusement bien, qui parle merveilleusement bien, mais qui va rester backstage, donc qui va rester cachée et faire la voix de la vedette. Puis ça raconte toutes leurs aventures et comment ils vont tomber amoureux. Et puis, comme tu l'as dit, c'est une comédie musicale, donc tout ça avec chansons, danse et tellement d'humour, tellement de chaleur. Moi, c'est vraiment, c'est mon feel good, là. C'est mon film doudou. C'est quand ça va pas, c'est ce film-là que je me mets. Puis au début du confinement, c'est immédiatement vers celui-là que je suis allée.
Ah, pour vrai, wow!
Ouais, je trouve qu'il y a quelque chose de très, très réconfortant dans ce film-là, qui n'est pas non plus neuneux, qui n'est pas cuculapraline, qui n'est pas guimauve, mais qui est juste, qui fait du bien, qui t'assure que, tu sais, les êtres humains, il y a des infréquentables, mais il y a aussi quand même des belles réserves de bonté, puis d'humour, puis d'ingéniosité. C'est vraiment, un film qui vient toucher cette petite corde-là chez moi.
Ouais, ouais. Puis pourquoi tu le mets dans ta liste? Comment il est rentré dans ta vie, ce film-là?
Il faisait partie des trois que je regardais religieusement ma mère quand j'étais petite. Puis, j'ai moi-même une petite fille, puis je lui ai fait voir il n'y a pas longtemps. Puis j'espère qu'elle le fera voir à ses enfants. Et on est en. Je trouve que c'est un beau film à transmettre. C'est cette idée aussi que la gloire, puis la beauté, ou les apparences, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus intéressant chez une personne. J'aime beaucoup ça. Ouais.
Parfait. Puis ton rapport à la danse, à la musique, il se manifeste comment aussi?
Écoute, et c'est bizarre, hein, parce que en général, les gens qui aiment le cinéma vont toujours avoir un rapport super marqué au réalisme. Oui. Il faut que ce soit réaliste, il faut que ce soit véridique, il faut que ce soit authentique. Puis, je suis la première à triper sur Ken Loach. Je ne renie pas du tout cet aspect-là. Mais pour moi, il y a un côté féerique puis magique dans le cinéma qui fait que, oui, tu peux accepter que quelqu'un se mette à chanter et danser en plein milieu d'une histoire. Puis pourquoi pas? Puis, il faut dire qu'avant, tu parlais de mon doctorat que j'ai fait sur le film noir. Puis, avant ça, j'ai fait une maîtrise et je l'ai fait sur la comédie musicale. Le cinéma du grand Hollywood classique, ça vient vraiment, vraiment me chercher. Il y a quelque chose qui me fascine de voir des genres hyper codifiés comme le film noir ou la comédie musicale, mais dans lesquels les gens arrivent à être super singuliers, avec des propositions super abouties, sans que les codes deviennent des contraintes, ou peut-être parce que c'est des contraintes, ça force à l'imagination, ça force à créer des choses un peu hors du commun. Fait que, j'ai toujours aimé ça.
Formidable. Si on passe à ton deuxième film maintenant, c'est un film qui, moi aussi, me rejoint beaucoup par son réalisateur, ouais. La force
oui.
scénaristique de cet homme. C'est un, c'est un dialoguiste de génie. C'est un metteur en scène brillant. C'est Some Like It Hot de Gene Wilder. C'est un film de 59.
C'est de Billy Wilder.
Billy Wilder, oui, mais oui. Pourquoi j'ai dit Gene? En fait, j'avais écrit Billy dans mes notes.
Je te dis, on est tout mêlé. On est tout mêlé. Il n'y a plus rien qui tient.
Il n'y a plus rien qui tient. Non, c'est ça. C'est ça.
Non!
Donc, c'est avec, j'espère que je vais bien les dire, Marilyn Monroe, oh! Jack Lemmon et Tony Curtis.
Exact, voilà. Oui!
Billy Wilder, à qui on doit des grands, grands films, c'est Sunset Boulevard, The Apartment... Double Indemnity, Seven Year Itch.
Et ouais, aussi.
Et pourquoi c'est Some Like It Hot que toi, tu choisis parmi toute sa filmographie?
Mais c'est vrai que j'aurais pu en choisir d'autres. C'est Sunset Boulevard, c'est un monument. Là. C'est extraordinaire. Quand tu penses, c'est un type qui est mort qui nous raconte une histoire. Mm-hmm. C'est, le film s'ouvre sur la voix de quelqu'un qui est déjà mort. C'est brillant. Là. C'est juste brillant. Mais Some Like It Hot, c'est Marilyn. J'adore Marilyn Monroe. Vraiment, j'ai une passion pour cette actrice que je trouve sous-estimée, voire même mésestimée. On a retenu le sexe symbole, oui. On a retenu les courbes, la femme enfant, le côté hyper glamour sexy, mais on a un peu oublié que c'est une actrice de comédie en particulier incroyable. Elle a un timing qui est unique, vraiment. Et c'est cette espèce de mélange de sensualité puis d'innocence, pas feinte, de vraie candeur, fait que moi je la trouve irrésistible, vraiment. Puis c'est une formidable actrice dramatique, elle l'a un peu moins montrée malheureusement, mais en comédie, j'ai jamais rien vu de tel. J'ai jamais rien vu dans les actrices qui étaient capables de s'approcher de ce qu'elle fait. Puis là, dans Some Like It Hot, c'est peut-être le joyau de sa filmographie comique, en tout cas. On commence dans le Chicago de 1929. On assiste, en fait, au massacre de la Saint-Valentin. Ouais. Et on est avec deux musiciens qui vont se retrouver témoins, malgré eux, de ce massacre-là. Donc, poursuivis par la mafia. Et pour s'en sortir, ils vont se déguiser en femmes. Et ils vont rejoindre... par toutes sortes d'aventures, ils vont rejoindre un orchestre de femmes dont Marilyn est la joueuse de ukulélé. Ouais. Il va évidemment arriver toutes sortes d'aventures, tout le monde va tomber amoureux de tout le monde. C'est aussi un film d'une grande... C'est réalisé en 59 et ça a une ouverture d'esprit, une vision du monde et des relations amoureuses qui sont d'une modernité. Même aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on n'aurait peut-être pas la même ouverture d'esprit et la même modernité. Je trouve que c'est un film vraiment à la fois charmant et brillant. Y a quelque chose de... Tu sais, on en voit plein des films brillants où tu es comme complètement en admiration devant l'intelligence de ceux qui ont fait ça. Mais Some Like It Hot, en plus, a un côté hyper accessible. C'est pas un film qui t'écrase de son intelligence alors qu'il l'est de façon manifeste, mais il y a quelque chose d'hyper, j'ai envie de dire facile, même si le mot est pas très beau, mais d'hyper... Ouais, c'est facile de rentrer dedans. C'est ça le génie de Billy Wilder, en fait. C'est d'être brillant, mais de comprendre que l'art du cinéma, c'est d'abord et avant tout de raconter une histoire. Puis oui, c'est ce qu'il fait. Et il le fait avec... En profitant évidemment du génie de ses acteurs, mais il le fait là aussi avec des rebondissements, un timing pas possible, tu le disais, des dialogues, tu pourrais tous les noter puis t'en faire des t-shirts, là, tellement c'est...
vraiment.
C'est tellement... Ah, c'est précis, c'est drôle, c'est... vraiment, je suis en admiration totale devant ce film.
C'est un gars qui peut partir d'une situation comme là, c'est un massacre qui part souvent de situations tragiques, comme Sunset Boulevard, tu l'as dit, c'est un gars qui est mort noyé dans une piscine. The Apartment, c'est une femme qui cherche à se suicider. C'est souvent, il part du tragique puis qui amène la lumière, qui amène la comédie là-dedans.
Exact.
C'est brillant, c'est brillant.
Ben, c'est la vie. Tu sais, c'est cette espèce d'univers qu'on connaît tous où le plus terrible côtoie le plus amusant, le plus absurde. C'est exactement ça. Puis lui, comme tu dis, c'est un conteur hors pair. Puis la réplique finale de Some Like It Hot,
oui.
quelle intelligence. C'est un des deux qui est déguisé en femme, s'est trouvé un amoureux qui est un vieux milliardaire. Puis à la fin du film, bon, je spoil, tant pis pour ceux qui n'ont pas vu.
Oui, c'est un film de 59, il y a 60 ans.
C'est ça, on va dire que... Puis donc, celui qui s'est déguisé enlève sa perruque et dit « Mais je suis un homme. » Et le vieux monsieur milliardaire lui répond « Mais, well, nobody's perfect. »
Nobody's perfect.
Ça, c'est merveilleux. C'est merveilleux. C'est d'une modernité. Puis un jeu aussi avec les conventions sociales, avec... En 59, on n'était pas tout à fait prêt à accepter les choses comme on les accepte aujourd'hui, et que Billy Wilder soit allé là et que ça ait passé sous les contraintes des codes de censure X et Y, chapeau quand même. Chapeau,
oui, puis,
Monsieur Wilder.
Mais justement, tu parles des codes de censure, justement, lui aussi, c'est en plus d'être un bon scénariste, un bon réalisateur, c'est un as pour contourner le code Hays.
Ben oui.
Qui limitait tout, justement, dans Seven Year Itch, où il fait passer toute la sensualité de Marilyn Monroe, puis toute la charge sexuelle de cette femme-là.
C'est ça.
Puis ça passe.
Mais tu vois, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que Hollywood, c'était tellement des codes et des contraintes que ça demandait aux créateurs d'être 10 000 fois plus inventifs. Et souvent, ça donne des résultats qui sont peut-être plus mémorables que quand tu peux tout montrer et tout dire.
Oui, effectivement.
Peut-être.
Effectivement. Oui, c'est d'être plus dans la suggestion, puis tu amènes un peu plus ton spectateur à réfléchir et à comprendre et interpréter ce que tu cherches à dire plutôt que de lui montrer en pleine face comme beaucoup d'autres comédiens ont pu faire par la suite. Là, ce qui
ouais,
est,
ouais.
Certaines brillamment, d'autres qui sont plantées forcément.
Oui, oui.
Ouais. Et si on reste dans le registre de la comédie et encore là, du cinéma qui... parle d'une certaine manière d'un vieux cinéma, du cinéma d'une autre époque. C'est The Big Lebowski, de Joel et Ethan Coen, 1998. Alors là, c'est la brochette d'acteurs. Là. Ça s'enchaîne les uns après les autres, là, juste pour Jeff Bridges dans le rôle du Big Lebowski, du dos.
Évidemment.
John Goodman, vétéran du Vietnam. Steve Buscemi, qui est juste là, qui se fait dire de se fermer la gueule.
Oui.
L'impériale Julianne Moore.
Oh, elle est une artiste contemporaine complètement délirante. Oh, elle est merveilleuse.
Puis Philip Seymour Hoffman dans un rôle qui ressemble à Smithers dans Les Simpsons.
Oui, c'est vrai.
ce film-là est brillant. Ce film-là, je n'arrêterai jamais de dire à quel point je l'aime. Ce film-là m'a sorti de presque une dépression.
Ah, oh, ben je comprends. Ouais.
C'est un film qui se regarde en boucle, qui s'analyse. Pour faire l'histoire simple, c'est un gars super lambda.
Ouais.
Une espèce de vieux hippie qui reste à Los Angeles. Les gens rentrent dans sa maison, pissent sur son tapis. Une réparation, il découvre qu'il y a un autre gars qui a le même nom que lui à Los Angeles, qui est un multimillionnaire. Il veut juste récupérer son tapis et jouer au bowling.
Son tapis!
Oh. Voilà, c'est ça l'histoire. Puis il se met les
trois
en entraînage. Ça va de plus en plus mal, puis c'est un film néo-noir, c'est du noir des années
80. C'est même une relecture complète. Il y a même un passage plan par plan de The Big Sleep de Howard Hawks.
Oui.
Puis les frères Coen, pour ça, ils sont géniaux. Vraiment, ils arrivent et dans tous leurs films, tu peux voir soit des passages, soit des clins d'œil, mais de tout le cinéma qui les a nourris. Ils travaillent à partir de ce qui a été fait avant eux. Et puis ils le font de façon extraordinaire, sans jamais se moquer, c'est jamais de la parodie.
Ouais.
C'est toujours cette espèce de fine ligne entre la révérence et l'irrévérence. Ils arrivent à trouver un ton qui est extraordinaire. Puis dans The Big Lebowski, c'est au-delà de tout. Si vous ne l'avez jamais vu, je vous envie parce que vous allez pouvoir le découvrir pour la première fois. Vraiment, pour de vrai, là, le choc qu'on a quand on découvre The Big Lebowski, c'est incomparable parce qu'il n'y a pas d'autres films comme ça. Il n'y a pas
vraiment
d'autres films qui nous demandent de suivre un slacker. Oui, il y en a, mais qui ont cette espèce d'humanité, de tendresse, de moquerie en même temps, d'inventivité, puis de pure mise en scène, parce que c'est un gros travail de mise en scène des Coen là-dedans. qui mélange, c'est ça le film noir, il y a un passage de comédie musicale, il y a un passage de bowling complètement délirant avec Rezos qui est joué par John Turturro. Et que tous ces morceaux-là marchent ensemble, mm-hmm. alors que ça aurait pu être un patchwork complètement mal assemblé ou bizarre. Non, tout ça est hyper cohérent, tout ça crée un univers qui... Mm-hmm. Moi, j'aurais voulu habiter dans ce film-là.
Ah, tout à fait.
Je pense. J'aurais voulu que ce soit mon voisin, le dude. Ouais. J'aimerais ça le connaître.
Je ne sais pas à quel point c'est un bon voisin. Je ne sais pas à quel point...
Non, peut-être pas un bon voisin,
cet homme-là mais... dans la vie. Encore moins le personnage de John Goodman que tu ne veux vraiment pas avoir dans ta vie. C'est un type
non, mais en même temps, tu veux l'avoir de ton bord.
Oui.
Si tu es dans, ouais, si t'es dans un... Je ne sais pas, s'il y a quelque chose qui se passe mal, tu veux qu'il soit de ton bord.
Oui,
c'est,
oui.
Si, quand même.
Si on est pour spoiler, encore une fois, il arrache quand même une oreille d'un gars avec ses dents.
Ouais, ouais.
Puis c'est traité entendre. D'une façon, c'est traité de façon comique. C'est juste, ben, c'est arrivé. Puis on pense à autre chose.
C'est ça. Mais tu vois, ce que j'aime, c'est que le comique est jamais non plus ridiculise jamais les événements tragiques de la mm-hmm. vie. Tu sais, la scène, évidemment, bon, là encore, on spoil, tant pis, mais les cendres de Buscemi, bon, il faut aller les disperser. Ça leur revient dans la face parce qu'ils sont mis dans le mauvais sens du vent. Puis c'est vraiment con. C'est drôle, mais en même temps, c'est super touchant comme moment. Il y a quelque chose de... ils viennent de perdre leur ami, puis c'est un moment... Oui, plein d'humanité. Ça, avec tout ce que l'humanité peut avoir de... Parfois d'absurde, parfois de grotesque, parfois de cocasse, mais en même temps, de... Tu sais, de profondément émouvant. Ce film-là se moque jamais de rien, et ça, j'aime beaucoup.
C'est ça. Comment tu l'as utilisé, justement, ce film-là, pour ton doctorat?
Ah, ben, en fait, mon doctorat, l'idée, c'était de montrer comment les Coen et Tarantino ont travaillé le film noir. Donc, c'est vraiment les premiers Coen, les premiers Tarantino. Je m'arrête à Jackie Brown.
Oui.
Puis, The Big Lebowski, ben, c'est sûr que l'histoire, c'est la même que celle de The Big Sleep.
Oui.
C'est vraiment, c'est le même principe. Hein. C'est un homme qui est engagé pour enquêter sur le kidnapping, la disparition de la femme, la fille dans un cas puis dans l'autre. Et les Coen retravaillent ça avec plein d'éléments qui viennent d'ailleurs. Donc moi, l'idée, c'était de montrer que... en fait, j'importais un concept d'histoire de l'art qui s'appelle le maniérisme mm-hmm. et qui représente les peintres qui sont arrivés après les peintres de la Renaissance. Donc pendant la Renaissance, les peintres avaient... quasiment touché la perfection en termes de couleur, d'harmonie, de perspective. On le voit encore, c'est incroyable de véracité, d'authenticité, de ressemblance avec le réel. Puis les peintres qui sont arrivés après, ben, forcément, ils ne pouvaient pas faire mieux. On ne peut pas vraiment faire mieux que l'idéal. Et donc, il a fallu se trouver leur façon de s'exprimer. Et ça a été par le fait de déformer des perspectives, de allonger certains aspects des corps des gens qui peignaient. Un des trucs les plus célèbres, c'est la Vierge au long cou, qui est une peinture avec une vierge qui effectivement a un très très long cou. Et le maniérisme, en fait, c'était une façon, par ces déformations-là des images, de montrer une certaine angoisse d'arriver après la perfection. De dire, ben, vu qu'on ne peut pas être plus parfait que la perfection, mais c'est un peu stressant, puis, voilà notre état d'esprit du moment. Mon idée, ça a donc été de dire que le film noir classique était déjà une déformation maniériste du film de gangster, qui est arrivé un petit peu avant, puis qui était une version presque idéale de cinéma policier, avec des bons et des méchants très clairement identifiés, etc., etc. Donc, que le film noir était un film, était un genre maniériste, et que ceux qui sont arrivés plus tard, donc les Coen, Tarantino, eux, inventaient un post-maniérisme, c'est-à-dire qu'ils déformaient encore le modèle, la perfection, mais cette fois avec humour. Donc avec des éléments qui venaient perturber, qui venaient déformer la forme classique, mais avec cette espèce d'humour qui est très, très particulier parce que, encore une fois, ils sont jamais dans la parodie. Parce qu'il y en a eu des déformations pleine d'humour du film noir, mais on tombait peut-être plus dans ce qu'on pourrait appeler le postmodernisme. Donc, on est presque dans la caricature, dans la parodie, dans le fait qu'on utilise des vieux trucs pour s'en moquer un peu ou pour faire des super gros clins d'œil. Là, les Coen, Tarantino, c'est pas ça. Il y a quand même, par exemple, la mort, elle reste toujours grave chez eux. Même si elle est traitée avec humour, il y a tout le temps ce sens du tragique qui est là. Ça arrive, tout ce qui arrive, ça arrive pas à des personnages en carton. Il y a des émotions, il y a des deuils, il y a de la gravité, même si tout ça est enrobé sous de l'humour, parfois quand même assez niaiseux.
Oui. Puis non, c'est tout à fait juste de dire ça, justement, que la mort est toujours traitée avec gravité chez les Coen. Steve Buscemi est mort plusieurs fois dans leur cinéma.
Oui. Oui, c'est vrai.
De façon très drôle à certains moments, mais c'est ça, il reste qu'une charge de...
Oui, c'est émouvant, c'est touchant.
Oui, c'est ça. Puis oui, c'est drôle comment il meurt ou c'est drôle comment c'est filmé, mais on sent quand même toute la charge qui, en un plan, sont capables de rendre ça. C'est assez brillant.
Ouais, vraiment. Yeah. Les Coen, c'est... Écoute, je ne sais pas si un jour on pourra nouveau avoir un film des Coen. Je ne sais pas dans quel état on va ressortir de tout ça, tout le monde, mais c'est des grands, grands, grands du cinéma mondial.
Mm-hmm. Oh oui, et puis toute leur filmographie mérite d'être
vraiment vue. Vraiment.
Très peu de faux pas dans leur cinéma.
À peine.
Puis comment c'est rentré dans ta vie, justement, ce film-là de Big Lebowski?
Ah, ben, bon, j'aimais déjà les Coen, mais pas d'un amour inconditionnel. Mais ben, en fait, c'est que ma maman s'appelle Anne-Marie Lebowski.
OK.
Et donc, quand ma famille, du côté de ma mère, on a su que ce film-là sortait, c'était sûr, hein, qu'on pouvait pas, on pouvait pas le rater. Fallait absolument qu'on aille le voir. Donc, moi, je me suis précipitée au cinéma dès qu'il est sorti. Puis ça a été une révélation. Hein. Mm-hmm. Puis, c'est le doute me faisait un peu penser à mes oncles. Alors, c'était comme si c'était mon film. C'était écrit dessus que fallait qu'on s'aime, lui et moi. Puis ça a marché.
Parfait. Écoute, sur ces beaux souvenirs,
oui,
et ton hommage de doudouism à tes oncles,
oui.
On va faire une petite pause et on revient de l'autre côté.
Parfait.
J'adore enregistrer On jase de films. Ça me permet de partager avec vous ma passion première qui est le cinéma et avec des invités formidables. Et si jamais vous avez des commentaires, si vous avez des critiques, des choses qu'on pourrait améliorer, des gens que vous voulez que je reçoive à l'émission, écrivez-moi sur Facebook, On jase de films, Instagram, On jase de films. Venez me parler, faites-moi vos listes, vos trois coups de cœur, les films que vous détestez, les films qui sont des plaisirs coupants pour vous. Je vais vraiment avoir un plaisir fou à vous lire. Sur ce, je retourne avec mon invité pour jaser de films. Re-bienvenue à On jase de films avec mon invité Hélène Faradji, avec qui en première partie on a passé en revue ces trois coups de cœur, trois films piliers qui étaient... Singing in the Rain, Some Like It Hot et The Big Lebowski. Maintenant, on va passer à un film qui est tout à fait l'inverse
yes.
de l'encensement que tu as pu faire de ces trois œuvres qui, pour plusieurs, est considéré comme un chef-d'œuvre. C'est une palme d'or. The Square de 2017 de Ruben Östlund, à qui on doit d'ailleurs Force Majeure.
Force Majeure, ouais. Film, ouais. Drôle de film, drôle de bestiole. Hein.
Ouais.
Moi, j'avais déjà... Force Majeure, j'avais pas à détester, mais j'avais pas non plus succombé à l'espèce de vague d'amour qu'il avait provoqué. Hein. Je me souviens que les gens découvraient Force Majeure avec des étoiles dans les yeux. Moi, j'avais trouvé ça un peu provoque. Plutôt, la proposition était intéressante, mais bon, ça m'avait pas non plus séduit que ça. Mais alors, The Square, là, ça m'a carrément irritée. Là. Je suis vraiment sortie du film. Oh, fâchée. Puis, tu sais, je pense que quand on aime le cinéma, on a le droit d'adorer et d'haïr très, très fort.
Hein. Vraiment.
C'est même ça qui fait qu'on reste, puis qu'on y retourne. Puis, je sais pas, je trouve que c'est important aussi dans un parcours de cinéphile d'avoir des objets de haine.
Oui.
Ça aide à redéfinir aussi ce que t'aimes, ce que t'aimes pas. Bon. Mais bref, ce film-là, on est à Stockholm, on est avec le directeur d'un musée d'art contemporain qui s'apprête à préparer une nouvelle expo qui s'appelle donc The Square, mm-hmm. et il va se faire voler son portefeuille. Voilà, grosso modo, pour les trams. Ça, c'est une succession de petites vignettes hyper publicitaires où tu as l'impression que le réalisateur, en fait, fait juste illustrer des slogans, puis des slogans super provocateurs. Il y a quelque chose d'hyper, je sais pas, complaisant. Ce qui m'agace, en fait, de ce film-là, c'est qu'il fait ce qu'il dénonce. C'est-à-dire que tu sens qu'il veut parler de l'indifférence des bourgeois au sort du monde, qu'il veut parler de la façon dont les relations humaines sont grossières ou sont souvent dans l'exagération. Puis il ne fait que ce qu'il dénonce. Ça, il réduit tout à des espèces de slogans. Honnêtement, j'aime pas Lars von Trier non plus, mais okay. Je pense dans le genre provocateur, je préfère au moins Lars von Trier, qui me semble s'assumer, qui me semble un peu moins donneur de leçons. C'est ça qui m'a agacée de The Square, c'est que j'avais l'impression de me faire faire la leçon par quelqu'un qui n'écoutait même pas sa propre leçon. Il n'y a pas de pensée dans ce film-là. C'est comme si on se vautrait dans les bassesses humaines tout au long du film avec complaisance, avec... Il a l'air très content de lui, hein, ce réalisateur-là. Très content de ce qu'il est, puis de ce qu'il pense, puis de ce qu'il fait. Moi... regarder un exercice d'onanisme cinématographique, ça m'intéresse moyennement. Fait que j'ai rien contre la provoque au cinéma, mais je pense que Ruben Östlund s'est pris pour Marco Ferreri, puis il a pas les chops pour. Voilà. On va le dire comme ça. C'est que de la gueule, ce film-là. C'est que du vent. C'est que ça crie très fort, mais ça dit rien. Fait que bon, l'intérêt pour moi est très limité.
J'ai l'impression que tu me décris quelqu'un qui a lu un livre de Frédéric Becbédé et qui s'est dit « je vais en faire un moi aussi
». C'est peut-être un peu ça. Ouais, il y a ce petit côté très... Moi aussi, je suis capable de vous expliquer le monde dans lequel vous vivez, puis regardez comme vous êtes con. Ah, ok. Bon, ben, voilà. Nous avons vu, puis ça ne nous intéresse pas. Ben, en fait, ça ne m'intéresse pas parce qu'il a quand même une palme d'or, fait que je dois être un peu toute seule. Mais c'est pas grave, je l'assume parfaitement.
Tant mieux. Mais c'est ça, c'est comme on disait tout à l'heure par rapport au cinéma sous les censures, sous les codes Hays, qui avait des limites. Ici, j'ai l'impression que tu me parles d'un film qui, justement, parce qu'il n'y a aucune limite, il se permet de tout faire, puis. Ben finalement, il nous sert quelque chose d'un peu grossier, d'un peu...
Ben écoute, je vais raconter encore une fois la fin, tant pis. Hein, ça va être l'épisode où je donne la fin des films. Mais c'est, ça n'a aucun bon sens. La fameuse exposition de Square, c'est un carré dans une cour pavée. Puis au milieu, il y a une petite miséreuse, une petite fille, en haillons, toute sale, toute cradote, qui a l'air de ne pas avoir mangé depuis je ne sais pas combien de temps. Puis elle explose. C'est ça le punch. Ouais. Elle explose. Ça n'a pas de bon sens. Je veux dire, c'est pour nous dire, vous êtes des parvenus, sentez-vous mal de comment vous traitez les pauvres. Oui, mais tu le fais aussi. Ça n'a pas l'air réfléchi, son truc. Ça n'a pas l'air pensé. Puis justement, peut-être que le fait qu'il y ait eu des contraintes dans le cinéma plus classique, on va le dire comme ça parce qu'il ne l'était pas, mais je pense que ça a forcé les cinéastes à réfléchir à ce qu'ils voulaient dire. Et là, dans ce cas-là, moi, j'ai eu l'impression de quelqu'un qui me jappait après, mais qui n'avait pas pensé plus qu'il fallait au monde dans lequel il vit. Ou en tout cas, pas avec générosité. Quand on prend la parole publiquement, que ce soit un cinéaste ou n'importe qui d'autre, on est quand même responsable de ce qu'on dit. Puis, il me semble, le cinéma, ça doit d'abord être un acte de générosité. D'abord, exact. Et avant tout, je crois. Voilà.
C'est assez caricatural aussi, justement, de prendre cette situation-là, comme tu décris, de je vais critiquer quelque chose, puis ça reste une question diégétique, ça reste dans le film. C'est un gars qui
ben
s'offuse
oui.
contre la façon qu'on traite les personnes dans une situation de misère et qui décide de faire encore plus de mal, finalement. C'est,
ben ouais, oui.
C'est un peu incohérent.
Et c'est ça. Ça, puis tu sais, je veux dire, les espèces de vignettes où ils nous déclinent que les hommes, c'est tous des orangs-outans, puis les femmes, toutes des hystériques. Bon, OK. Voilà, pour moi, c'est pas ça le cinéma. Ça m'ennuie. Puis ça, en fait, probablement que le fait qu'il a eu la Palme d'Or a ajouté à mon agace.
Ça aide jamais, ouais, ça aide jamais.
Non, c'est ça. Sinon, il serait peut-être relativement. Tu vois, aujourd'hui. Ben, on est quand même quelques années plus tard. Oui. Il l'a eu en 2017.
Oui.
Ça fait 3 ans. Puis, j'y repense pas à ce film-là. Il me hante pas négativement. Mm-hmm. Mais le fait qu'il ait eu une Palme d'Or, ça sur le coup, ça m'avait vraiment, vraiment... Ah,
ouais.
J'étais pas contente.
Donc, et enfin, si on pense à... J'ai demandé un film qui était un plaisir coupable. Mais toi, tu m'as envoyé des genres de films qui sont les films de danse, les films de sport et les films de requins. C'est très spécifique. C'est une sous-catégorie du cinéma.
Oui.
On va commencer avec les films de danse. On a parlé de Singing in the Rain au début. Qu'est-ce qui vient de prendre dans ces films-là?
C'est comme le petit cousin moche des comédies musicales, les films de danse. Faut pas vous aller vers là en pensant que ça va être une aussi bon que West Side Story. Non, c'est les step-up. J'aime beaucoup les step-up.
Mm-hmm.
Il y en a 4, 5, je sais plus. Il y en a beaucoup, hein. Mais je sais pas, il y a quelque chose dans les films de danse un peu quétaine comme ça. Puis ça fait longtemps qu'il y en a pas eu. Mais qui, encore une fois, tu vois, tu me fais prendre conscience que j'aime ça, l'idée des contraintes puis des codes. Parce que ceux-là, c'est des films qui ne font que obéir aux codes. Il y a des codes hyper clairs. Il faut que ça danse, il faut qu'il y ait un danseur classique traditionnel, un danseur de rue qui va bouleverser la vie du danseur traditionnel par ses moves beaucoup plus libérés. C'est toujours un peu le même moule, la même formule, mais je trouve beaucoup de réconfort à regarder ça. Il y a quelque chose de je sais exactement ce qui va arriver, les gens dansent bien, ça me divertit, je l'oublie aussi vite, mais je sais pas, il y a un petit côté petite bulle niaiseuse qui me satisfait beaucoup, beaucoup dans le film.
Ouais.
Il y en a même un avec Charlotte Rampling.
Okay.
Ouais, et je me rappelle plus du titre parce que c'est ça aussi mes plaisirs coupables.
Ouais.
J'ai pas pu te donner un titre parce que je les oublie. Je les regarde, j'ai beaucoup de plaisir, puis après ça, j'oublie entièrement ce qui s'est passé. Mais je me rappelle de un où elle est directrice d'une école de danse classique. Et évidemment, une de ses petites danseuses va être perturbée par un jeune danseur de hip-hop qui vient de la rue. Et Charlotte, elle va quand même l'accueillir, puis elle va l'aider à s'épanouir. Ça va être très beau. Mais tu vois, des fois, il y a des petites surprises comme ça dans les films de danse qui me plaisent bien. J'aime bien voir Charlotte Rampling là-dedans. Ça me fait rire.
Ouais, je pense, ma sœur en écoutait beaucoup quand elle était jeune.
Ah oui, hein?
Je crois que c'est... Ben, le film que tu me décris, ça ressemble à l'histoire de Step Up, mais pas Step Up, mais Save the Last Dance, mais en même temps, c'est un peu toujours la même histoire.
Oui, c'est ça, c'est toujours la même chose, mais c'est possible. Oui, Save the Last Dance, j'irai vérifier juste pour savoir, mais ils se valent tous. Hein. Il n'y en a pas un meilleur que d'autres.
Ouais, puis j'ai l'impression, tu sais, c'est ça, la façon que tu me décris le film de danse, c'est le pendant féminin des films très masculins de sport qui sont toujours sur le même canevas, eux autres aussi.
Ah! C'est sûr.
C'est toujours
tout à fait.
L'un qui est un univers masculin, l'autre toujours féminin. C'est des publics
Oui. Ben, tu vois, moi, j'aime les deux. J'adore les films de sport. Puis les films de sport, attention, là, il y a des chefs-d'œuvre. Hein. Il y a quand même Raging Bull, Moneyball, tout ça. Là, on n'y touche pas. C'est sacré. Mais il y a toute cette espèce de catégorie de films de sport un peu pouiche, très codifié là aussi. C'est le jeune athlète qui débarque, qui est l'espoir de sa ville / sa famille, qui va réussir pendant un temps, qui va se blesser, ou en tout cas, il va arriver quelque chose qui va le faire tomber. Puis il va rejaillir grâce à sa blonde, son entraîneur, sa famille, Dieu, allez savoir.
Oui, oui.
Il y en a plein, plein, plein. Puis et là, tu vois, c'est pas tant l'aspect code qui me plaît, c'est le côté émotion très primaire, très premier degré. C'est très facile de pleurer devant un film de sport. C'est tellement facile. Les ficelles sont grosses, ils appuient sur les touches sur lesquelles il faut appuyer. Mais je retrouve l'espèce d'émotion super premier degré que je peux avoir quand je regarde les Jeux Olympiques, par exemple.
Okay,
pleure beaucoup, beaucoup en regardant le sport à la télé. Je sais pas, il y a quelque chose de ça vient appeler quelque chose en nous de très fondamental, je crois.
Ça devient
viscéral. La victoire ou la défaite. Ouais, c'est ça. Ce n'est qu'une question de victoire ou de défaite, après tout. Il y a rien d'autre qui est en jeu. Puis, on le connaît tous, ce sentiment-là. Que ce soit en sport ou ailleurs, on peut tous se raccrocher à ça. Puis, le film de sport, en général, vient vraiment taper super juste sur cette corde-là. Mais j'aime beaucoup les mauvais films de sport aussi.
Okay.
Tu sais, en souvenir, We Are Marshall, ça, j'adore. Même pour Toujours les Canadiens, je le prends. Je suis là. je vais le voir. Je suis très heureuse. Lui, il ne m'a pas fait pleurer, là, sauf de rire. Je ne sais pas. Il y a quelque chose de facile pour moi dans le film de sport que j'aime. Qui me détend, qui me fait du bien, puis qui libère. C'est très cathartique. Même si le film est mauvais, je sais que je vais pleurer. Je m'en veux pas, là, c'est pas grave.
Ben non, il faut pas.
Je pleure. Non, c'est ça, mais tu sais, il y a des gens pour qui l'émotion au cinéma, c'est quelque chose de précieux, puis de noble, puis de sacré, puis je respecte ça tout à fait. Mais je pense que ces films-là, ils ont aussi ce mérite-là. Ils nous font pas réfléchir, ils nous divertissent pas tant que ça, mais ils sortent. Une émotion. C'est cathartique. Ils sortent le méchant. Je sais pas, quelque chose dans le dépassement de soi, dans les valeurs qui sont très premier degré aussi. C'est presque des films pour enfants, en fait, les films de sport. Hein.
Vraiment.
C'est vrai, mais c'est vrai. C'est basique. Hein. Cours vite, sois bon, occupe-toi de tes coéquipiers. C'est rien de... C'est pas une recette sophistiquée.
Non, c'est ça. C'est toujours le moment qu'on attend tous dans ces films-là, le speech du coach.
Mais oui!
Qui va renverser la vapeur et qui, là, soudainement, va faire en sorte que l'équipe devient bonne parce qu'elle perd par 50 points ou par 10 points ou par 2 points.
Mais c'est merveilleux, ce moment-là. Puis, tu sais, on sait qu'il existe dans la vraie vie, probablement.
Mm-hmm.
Je veux dire, c'est sûr que à la mi-temps d'un 7e match de finale de Coupe Stanley, c'est sûr qu'il se dit quelque chose de galvanisant dans le vestiaire. Puis, c'est ça, ils retrouvent ça. Les films de sport, en tout cas, la plupart, là, arrivent à retrouver ça, ce côté galvanisant.
Mm-hmm.
T'embarques avec eux, t'es porté par quelque chose de un peu plus grand que toi, même si c'est très, très basique et très premier degré. Puis, c'est une belle fonction du cinéma, je trouve.
Tout à fait.
C'est assez noble aussi, malgré tout.
Mm-hmm. Et enfin, les films de requins.
Oui.
Ça, je veux comprendre. Parce que pour vrai, à part Jazz, je peux pas t'en nommer des tonnes.
Non, il n'y en a pas des tonnes. Un souvenir que j'ai, c'est de mes parents qui m'avaient laissée toute seule chez moi et moi qui avais regardé Jazz.
Mm-hmm.
Puis j'avais été terrorisée. Je me souviens encore de la peur, du sentiment que ça m'avait fait. C'est peut-être le premier film qui m'a vraiment... fait peur. Puis les gens aiment beaucoup les films d'horreur. Moi, j'aime pas tant ça, mais les films de requins, il y a quelque chose qui vient remplir ce besoin-là, je pense. Pourquoi on va au cinéma? T'sais, on y va pour être ému, pour vivre une histoire par procuration, pour aimer, désirer, peu importe, mais on y va aussi pour avoir peur. Je pense qu'il y a quelque chose. On aime ça avoir. T'sais, on aime ça jouer à se faire peur. Puis c'est ça. J'arrive pas, j'ai trop peur pour les films d'horreur, de livrés de vrai. ça me terrorise bien trop. Fait que peut-être que les films de requins, ça vient juste remplir ce petit besoin-là que j'ai d'exorciser des peurs. Puis, tu sais, Jaws, c'est un bon film. Ça reste un très bon film. Il y en a d'autres. Open Water, ça m'avait vraiment fait peur. C'est deux plongeurs qui partent avec un groupe en haute mer. Le groupe plonge, tout le monde s'amuse, blablabla. Puis le couple, à un moment donné, regarde pas et le groupe repart sans eux. Mmh. Et donc, ils restent au milieu de l'océan, tout seuls, avec juste leur bouteille, puis il y a des requins qui arrivent. C'est juste ça, le film. Oh, c'est bon. Oh, c'est un exercice de suspense. C'est presque du Hitchcock. Hein. C'est fascinant.
Ben oui.
Mais moi, j'aime les mauvais films aussi de requins. Ouais, non. Puis, il n'y a rien. Il y a deux personnages, de l'eau, des requins. That's it. Mais sinon, j'aime beaucoup... qu'est-ce que j'ai vu de pas très bon comme ça, 40 Meters Down avec Mandy Moore. Ça, c'est pas bon. C'est vraiment pas bon. Il y en a un aussi avec Samuel L. Jackson que j'aime bien, qui s'appelle... Oh là là. Un truc avec Water, sûrement.
Oui, c'est pas ça. Là.
Ils ont tous le même titre.
Oui.
Mais je sais pas, tu sais, c'est la bête venue du fond des mers qui terrorise. Puis, je trouve que c'est une peur assez ancestrale qui, en général, marche bien dans le film de requin. C'est bien exploité. Là encore, je les retiens pas. Il y en a des bons, mais ceux qui sont mauvais, je les retiens pas. Je les regarde probablement juste pour exorciser des peurs.
Mais quand tu te retrouves à la plage...
Finalement, c'est une thérapie, le cinéma.
Il y a ça aussi,
non,
oui.
Non, j'ai pas peur dans la vraie vie. Okay, okay. Non, non, non.
OK, t'arrives quand même à aller à Cape Cod, puis...
Et je pense... Bah, écoute, j'ai pas les moyens, mais oui, si j'avais les moyens, j'irais. Mais je pense que j'ai une fascination pour les requins. Je rêve de pouvoir nager dans une... C'est d'être dans une cage, là. Mm-hmm. Ah, j'adorerais ça.
Ah, ouais.
Oh, plonger, puis avoir des requins autour. Oh, mon Dieu, que j'adorerais ça. Je trouve ça... C'est une bête vraiment fascinante. Ça a comme l'air préhistorique. C'est super intelligent. Ouais. C'est dangereux comme tout. Ah, j'aime beaucoup. Je sais pas pourquoi, mais ça me fascine. Voilà. J'aime ça, les gros poissons.
juste en terminant, j'ai une dernière question à te poser.
Oui.
Toi, tu viens de la France. Tu es venu t'établir au Québec. J'ai souvent vu défendre le cinéma québécois, puis l'encenser. Répondre à Vincent Gouzeau sur ses folies.
Ouais.
Comment le cinéma québécois est rentré dans ta vie? C'était quoi tes premiers rapports avec ça?
C'est très drôle. En fait, c'est un double rapport. C'est quand je suis arrivée, donc j'étais en sciences politiques. Puis, tu sais, quand tu arrives en échange, les étudiants québécois veulent te faire découvrir leur culture. Puis, c'est très apprécié par les gens qui arrivent. C'est les meilleurs guides qu'il peut y avoir. Mais le premier qu'on m'a montré, c'est Slapshot. doublé en québécois.
C'est un film québécois.
Vraiment, c'est ma première expérience, donc j'étais un peu dubitative. Oui. Je ne comprenais pas très bien. Mais après ça, par contre, j'ai eu la chance d'avoir quelqu'un qui m'a mis entre les mains Yes, Sir, Madame de Robert Mann. Oui. Et ça a été mon premier film québécois. J'en reviens encore pas. Je le regarde tous les ans. J'aime profond. Et en plus, pour moi, c'est un film qui... Même si que j'arrivais au Québec, je comprenais pas encore très très bien, mais je trouve que c'est un film qui comprend et condense ce que c'est que l'identité québécoise.
Ouais.
On devrait le faire voir à tous les gens qui arrivent. Et puis plus tard, j'ai compris que dans ce film-là, il y avait aussi quelque chose qui me plaisait énormément du cinéma québécois. C'est ce côté qui peut paraître tout croche aux yeux de certains, mais que moi je trouve surtout inventif. Et c'est ce que j'aime du cinéma québécois, c'est que c'est un cinéma qui n'a pas beaucoup de moyens, mais qui cherche, qui trouve, qui invente des façons de faire. C'est pas pour rien que le faux documentaire ou le documentaire est si répandu ici. Tu sais, c'est une forme qui coûte pas si cher, qui est plus économique, mais par laquelle on peut être super inventif, on peut créer des choses qui n'existent pas du tout ailleurs. Fait que, tu vois, autant j'aime du cinéma américain, c'est ton espèce de jeu avec les codes, autant j'aime du cinéma québécois sa profonde liberté, sa façon d'inventer qui il est constamment. Ça me plaît énormément. Il y a une liberté que je vois pas ailleurs.
Oui. Encore une fois, c'est la notion de contrainte qui revient.
Ouais, ben oui, c'est sûr. Hein, mais tu sais, j'aime beaucoup le film noir. J'ai fait mon doctorat là-dessus. Puis le film noir, ça n'a existé que parce qu'il y avait des contraintes économiques folles dans les studios. Puis souvent, ça nous fait peur, les contraintes, puis c'est normal. Mm-hmm. Mais c'est aussi des occasions d'inventer des façons de faire qui peuvent être extraordinaires.
Tout à fait. Écoute, Hélène, ça a été un plaisir de te recevoir
à mon merci podcast. Beaucoup.
Qui sait, un jour, on fera peut-être une prise 2 avec vos films qui t'ont marqué. Ça serait génial.
J'adore.
En terminant, si les gens, je ne sais pas si tu veux que les gens te suivent sur les réseaux sociaux, quoi que ce soit, où est-ce que les gens peuvent trouver ce que tu fais?
La section cinéma du site de Radio-Canada, donc Radio-Canada/cinéma, et puis la balado de Fred Savard, disponible tous les samedis sur toutes les belles plateformes.
Formidable. Donc, je m'appelle Guillaume Saint-Cyr et avec Hélène Faragie, on a jasé de films. À la prochaine.